Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bon alors, là, c'est... je laisse l'audience s'envoler
avant que vous vous lancez comme ça.
Avant de vous lancer dans une tirade, je tenais quand même à vous dire que l'entretien était passionnant sur CNews. C'était quand même, on apprend beaucoup de choses.
Je plus sois,
évidemment, vous plus soyez. Et donc, l'interview sera en ligne d'ici peu. Donc, bravo.
Bon, maintenant, je laisse l'audience s'envoler et c'est vous qui lâchez le petit oiseau.
Allez, la pression est énorme. On peine à imaginer le monde qu'il nous prépare, comme si les leçons du passé avaient été effacées, oubliées, balayées d'un revers de main, pour mieux tracer la route à Édouard Philippe qui n'hésite pas à avancer, alors même que nous sommes au bord du précipice. Et voilà qu'une fois encore, il tente de nous imposer les voitures électriques, un véritable bras d'honneur adressé aux Français, selon Pierre Chasseret.
Non, clairement, c'est un bras d'honneur qu'on fait à tous les Français. À tous les Français qui sont asphyxiés à la station-service aujourd'hui. En plus, j'ai entendu des inepties de la part de Sébastien Lecornu, notamment sur le fait que ça coûterait de l'argent, de libérer un petit peu de fiscalité sur les prix des carburants pour les automobilistes. Ça n'a aucun sens. En ce moment, on est en train d'étrangler les Français à la station-service. Quand on entend cette détresse, quand on entend les Français qui perdent tout leur reste à vivre dans des taxes de carburant, et qu'on entend un Premier ministre déconnecté qui vous explique que c'est facile, il n'y a qu'à acheter une voiture à 50 000 euros. Quand on entend ça, Sébastien Lecornu, j'espère qu'il a bien compris que ce soir, il vient d'adresser un bras d'honneur aux 40 millions d'automobilistes français.
Un bras d'honneur, oui, mais surtout une erreur stratégique majeure. Car derrière cette transition forcée, certains voient bien plus loin. L'ancien patron de la DGSE, Alain Juillet, révélait il y a quelques mois sur TV Liberté le véritable plan du président chinois. Un plan que, visiblement, aucun responsable politique n'a anticipé, au risque de sacrifier notre économie.
Yipin, dans un de ses discours, on ne l'a pas cité, c'est dommage. Un de ses discours, il a dit « on va faire des véhicules électriques et on va envahir la planète avec les batteries, parce que nous sommes les seuls à pouvoir faire des batteries à prix intéressant. » Parce que nous contrôlons les terres rares. OK. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté que personne n'a dit? Mais il a dit, mais j'ai donné l'ordre que dans 10 ans, on soit prêt pour faire des voitures à hydrogène. Oui Marc, pourquoi ça, je vous dis ça? C'est parce que la voiture à hydrogène, elle utilise un moteur à combustion qui est le même que celui qu'on utilise chez nous aujourd'hui pour les moteurs à essence ou diesel. Il y a juste quelques petites transformations. D'accord? On est tous en train de faire des voitures électriques. Dans 10 ans, on ne saura plus faire des voitures avec moteur électrique, on n'aura plus les chaînes, on n'aura plus rien. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qui va envahir l'Europe avec ces voitures?
Après l'avoir envahi avec les véhicules électriques.
Les Chinois. Et en plus, et c'est ça qui est formidable avec les Chinois, ils l'annoncent. Parce que comme ils ont des plans à long terme, ils expliquent ce qu'ils vont faire. Mais mon Dieu, pourquoi nous, on ne lit pas ce qu'ils racontent? Ça nous éviterait de faire des erreurs stratégiques majeures.
Et pourtant, ils persistent. Ils imposent, ils contraignent, ils culpabilisent au nom d'une bonne conscience écologiste, souvent teintée d'une certaine hypocrisie, comme le montre cette archive du journaliste Laurent Geoffrin sur CNews.
Et au lieu de prendre la voiture pour faire 2 km, il suffit de prendre le métro.
Et je vous ai marché à pied. Et d'ailleurs, vous êtes venu en métro ce matin.
Non, moi je suis venu en taxi, pourquoi?
Ah oui, bah voilà. Donc c'est toujours pareil.
Moi je me plains.
Le métro, c'est pour les autres.
Et voilà. Ou encore l'ancienne sénatrice écologiste Esther Benbassa, piégée en direct par l'avocat Pierre Gentillet avec une question simple, mais redoutable.
C'est ma préférée, celle-là.
Ah ouais, moi aussi je l'adore.
Tous les jours les transports en commun.
Monsieur, je n'ai pas de voiture.
Ouais.
Enfin, j'ai ma voiture personnelle.
Ouais.
Je prends les transports.
Prenez quoi comme ligne?
Oui, je prends la ligne.
Quelle ligne? Vous ne savez pas quelle ligne vous prenez, très bien, madame.
Magnifique, bravo Pierre Gentillet. Mais au fond, ce décalage entre les discours et la réalité ne s'arrête pas là. Il se retrouve aussi dans un autre domaine clé, l'audiovisuel public. Avec en toile de fond une question de plus en plus brûlante, celle de la connivence entre responsables politiques et journalistes. Et parfois, il suffit d'un micro resté ouvert pour que tout devienne limpide. Exemple avec le ministre Roland Lescure.
Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info. Excellent début de journée, il est 9h.
Ça va, ça vous allait?
C'était bien. Bah pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire, vous aviez plein de choses à dire.
Ça ne serait pas arrivé si vous étiez aux manettes, Franck. Hein.
Non, ça c'est sûr. Par contre, c'est bien la première fois que j'envoie un jingle France Info
Oui, là ça fait bizarre. C'est clair que ça fait bizarre. Ami, ami, copain, copain. Autrefois dissimulé, cette proximité apparaît désormais au grand jour, notamment grâce à la commission d'enquête parlementaire, qui s'est achevée la semaine dernière après des auditions parfois très tendues, et parmi elles, celle de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.
Pardon, mais je trouve ce procédé très manipulatoire. Un, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. Deux, vous additionnez deux rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et voilà. Donc, je le redis, je ne sais pas comment le dire. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord ? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez ? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Avec des dotations en baisse. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion. Même vos collègues, d'ailleurs députés, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, mettez-vous d'accord. Envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire.
Et face à ces critiques, le rapporteur Charles Alloncle ne se démonte pas. Il avance des chiffres précis et accablants.
Il y a des accusations vraiment, et quand vous expliquez les collègues, c'est des collègues de gauche qui, depuis le début, n'ont eu pour seule mission que de discréditer les constats. Je vais simplement être très factuel. Tout le monde pourra le vérifier, Madame la Présidente. Dans le rapport de la Cour des comptes, rendu en 2016, en page 162, est indiqué que la dotation publique pour France Télévisions en 2015 est de 2 milliards 480 millions. Dans le rapport de la Cour des comptes de 2025, page 58, est indiqué qu'en 2024, la dotation publique de France Télévisions est de 2 milliards 616 millions. Ce qui fait une augmentation de 136 millions. Donc depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux, alors que la Cour des comptes atteste de ces chiffres-là. Et je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, page 162 du rapport 2016 de la Cour des comptes et page 58 du rapport 2025 de la Cour des comptes. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat, c'est-à-dire 2015, année de votre arrivée, et dernière année de validation des comptes, 2024?
Mais la riposte ne tarde pas. Et elle vient de poids lourd, comme Xavier Niel, patron de Media One, figure incontournable du paysage audiovisuel français.
Vous coûtez 11 000 euros par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 euros par mois aux Français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte celle, monsieur, votre dotation coûte 7 000 euros par mois. Vous arrivez à 35 000 euros.
Niel,
puissent les salaires, il y a 30 membres dans
monsieur
cette commission.
Niel, monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la
commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir, laissez-moi atterrir, s'il vous plaît.
Non, mais
laissez-moi atterrir.
Non, mais, monsieur Niel, que vous. Non, mais je
vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 et j'arrive pas à parler.
Monsieur Niel, non, je vous laissais parler, j'ai essayé de modérer les échanges un peu vigoureux entre vous et le rapporteur, j'ai essayé de faire au mieux, ce qui n'est pas toujours évident.
Une pression qui en dit long sur les intérêts en jeu, car derrière ces auditions, c'est bien un rapport explosif qui se prépare, au point que Charles Alloncle lui-même redoute un véritable traquenard, des alliances de circonstances entre certains députés et des relais médiatiques, avec un objectif clair, enterrer ce travail devenu trop dérangeant.
Que les gens
je voudrais
bien,
simplement
s'il
dire.
S'il n'est pas voté ce rapport,
exactement.
Il termine aux oubliettes, voilà, qu'est-ce qu'il va devenir ?
Ce n'est pas que le rapport qui ne sera pas publié, c'est l'intégralité des vidéos des auditions, des comptes rendus des auditions qui disparaîtront du jour au lendemain, notamment du site de l'Assemblée nationale, et qu'on ne pourra plus exploiter. Donc il y a un enjeu qui est immense, qui est énorme en ce moment, qui d'ailleurs est à la hauteur et à la proportion du déchaînement médiatique qui est en train de se produire en ce moment contre moi et contre globalement les travaux qu'on a fournis sérieusement depuis 6 mois, puisque si le rapport n'est pas publié, on ne pourra plus diffuser et retrouver les vidéos de ces 70 auditions, on ne pourra plus retrouver les comptes rendus de ces 70 auditions, on ne pourra même plus relayer des révélations et des propos qui ont été tenus dans le cadre de ces auditions sous peine de poursuite pénale. Donc vous voyez, je voudrais simplement vous interpeller sur le fait que l'enjeu de jeter le discrédit dans ces derniers jours, la ficelle est quand même très grosse. Ils vont tous se déchaîner pour essayer d'obtenir un vote défavorable.
Et ce climat, déjà tendu, pourrait encore s'aggraver. Car le véritable scandale serait peut-être ailleurs. Voir disparaître des centaines d'heures d'audition à la suite d'un simple vote défavorable. Un risque bien réel, comme l'a rappelé sur nos antennes notre chroniqueur Arthur de Vatrigan.
Si le rapport est voté comme non publiable, tout ce qui a été fait depuis des mois doit disparaître. C'est-à-dire les comptes rendus, les vidéos, les déclarations, ça disparaît. Alors tout le monde dit oui, mais on peut sauvegarder, on peut. Très bien. Mais ça ne peut pas être utilisé. Ça ne pourra jamais être utilisé. Et ça relève du pénal. Depuis le début, tout est fait pour que cette commission n'ait pas lieu. Mais tout. C'est-à-dire qu'il y a, ils ont, il y a des choses qui sont passées qui ne s'est jamais passé pour les, toutes les commissions depuis que l'histoire des commissions existe. Mais depuis le début, quoi, vraiment. Avec des, ils ont inventé des règles en cours de route. C'est. Non mais c'est fascinant.
C'est tellement commun.
Je, non mais je vous raconterai, je vais vous raconter des petits exemples parce que honnêtement, on peut se dire, on a déjà tout entendu sur Charles Lancle. Je vais vous dire le sujet pour le grand public. Le scandale, c'est le pluralisme. À la, fin de cet entretien, je me dis le pluralisme, pour parler en auvergnois, c'est bullshit. C'est presque un non-sujet comparé à la mafia, parce que c'est un système mafieux qui existe au sein de cette entité qui s'appelle l'audiovisuel public. C'est fascinant, entre les menaces, les magouilles, les échanges de postes, c'est, on parle de 4 milliards hein, par an,
oui.
Dont 3 milliards pour France Télévisions. Donc c'est, honnêtement, c'est fascinant. Et donc je me dis, naïvement, comme tout a été fait pour que ce soit empêché, que cette commission n'ait pas lieu, et que pendant la commission, des choses ne se passent pas, il n'y a aucune raison que les gens, les députés, ne votent pas contre. Le but, c'est que ça ne soit pas publié. C'est ça l'objectif.
Mais est-ce que ce ne serait pas un scandale gigantesque?
Mais il y a les syndicats.
Il faut faire monter l'information. Les gens ne le savent pas.
Et ce que le public ignore souvent, ce sont les coulisses, les pressions, les intimidations, les menaces subies tout au long de cette commission, sans oublier les attaques médiatiques destinées à discréditer le rapporteur. Des méthodes que résume parfaitement, encore une fois, Arthur de Vatrigan, qui n'hésite plus à les qualifier de mafieuses.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte qu'il a eu plein de pressions. Il a eu plein de pressions. Alors, le mieux de la pression, c'est la veille de l'audition d'Ernaut. Vous avez eu, étonnamment, dans quelques heures concentrées, un communiqué de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, qui est la Cour des comptes, non, il n'est plus la Cour des comptes. S'il était à la Cour des comptes à l'époque, je ne sais plus. Bref, qui s'occupe, celui qui sortait les rapports, vous savez, notamment sur France TV, va dans Quotidien pour dire Charles Lancle raconte n'importe quoi. Et vous avez Madame Ernaut, la veille de son audition, dans un grand quotidien qui dit que Charles Lancle diffuse des fake news. Donc, je veux dire, la veille de l'audition de la grande patronne, tout d'un coup, vous avez un concentré de personnes qui envoient du tir croisé. Mais il y a eu aussi donc, les menaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Charles Lancle s'approchait des sociétés de production de privé, les menaces augmentaient. C'est des coups de fil, c'est des messages par des proches, c'est « il ne devrait pas faire ça », c'est « oui, mais si tu penses à ton avenir, peut-être qu'on pourrait faire ça ». Voilà, ça, alors il n'a pas voulu me donner les noms, il n'a pas voulu nous dire les noms, évidemment, mais plus il s'approchait du privé, plus la menace intensifiait. Et si vous regardez hier l'audition de Xavier Niel et de Mathieu Pigas, je peux vous révéler quelque chose, c'est que Xavier Niel, avant de rentrer dans la commission, a pris deux cachetons. Ça peut expliquer, soit il voulait descendre la pression, soit il voulait l'augmenter. Mais en tout cas, il y a un souci, ça le voyait dans le caractère.
Voilà, donc jusqu'où sont prêts à aller ceux qui nous dirigent, nous informent et nous divertissent. La voiture électrique et l'audiovisuel public peuvent sembler être deux sujets bien distincts, mais en réalité, une chose les relie parfaitement, l'insolence et le mépris de ceux qui les pilotent, une mécanique qu'on retrouve partout, quel que soit le sujet. Alors on peut souhaiter bon courage à Charles Lancle, hein, comme à nous, pauvres gueux que nous sommes, condamnés à subir tout ça encore au moins un an. D'ici là, je vous laisse. J'ai deux cachetons à prendre pour redescendre.
Je ne vous savais pas poète, Louis.
Ah,
bravo.
Vous savez, vous m'inspirez en fait ce matin dès que vous êtes là.
Et ben, c'est très
c'est la muse de Louis. Exactement. Visiblement.
Et ben, slam honor.
Voilà. Bah, j'espère vous retrouver la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, si jamais vous êtes toujours là.
Bien sûr, je serai toujours là. Allez, au revoir.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous recevons Lucas Chancerel. Lucas Chancerel, porte-parole de Polémia, journaliste à TV Liberté. Lucas Chancerel, bonjour.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour un dossier de 130 pages presque que Polémia a produit. Un dossier sur les 200 familles qui dirigent la France. Alors, les 200 familles, vous le dites dans l'avant-propos, c'est une vieille expression qui d'ailleurs était un peu polémique déjà à l'époque, il faut le dire. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, les 200 familles, donc c'est une expression historique, ça provient du Front Populaire en 1936. Ça désignait en fait les actionnaires de la Banque de France, alors qu'ils n'existent plus. Mais c'était pour pointer du doigt cet état profond qui a un petit peu changé de nature. Hein, on va le voir dans ce dossier des 200 familles. Et Polémia, qui défend nos libertés, notre identité et lutte contre les oligarchies, a justement voulu s'intéresser à cette oligarchie qui est contre l'intérêt des Français en réalité. Et on a fait un gros dossier papier que vous avez cité, ainsi qu'une cartographie interactive. Alors là, c'est un peu l'innovation technique. Vous avez la possibilité de voir les liens de différentes natures qui existent entre 350 noms, on l'a dit. Donc c'est quelque chose qui est collaboratif. Il faut encore continuer ce travail parce que tous les noms ne sont pas référencés. Mais il y a des liens d'affaires, des liens d'alliances. Alors les alliances au sens moderne du terme, hein, ça peut être les mariages, les concubinages. Par exemple, entre M. Attal et Séjourné, ça peut être les liens également capitalistiques. Bon, on a vraiment voulu avoir une acception large du sens de cette alliance, de ce petit monde finalement. Ce qu'on constate dans cette cartographie, c'est qu'il y a très peu de noms. Il y a très peu de noms qui se relient entre eux, ils se fréquentent, ils vivent entre eux, ils se marient entre eux, et ils sont mus par une même idéologie, des mêmes intérêts.
Alors, ce qu'on voit, c'est que moi, ce qui m'a intéressé, c'est le choix un petit peu des personnalités qui sont dedans. Vous dites, par exemple, toujours dans cet avant-propos, que vous n'allez pas citer finalement les 200 familles les plus puissantes de France. En réalité, vous avez quand même sélectionné celles qui, selon vous, vont à l'encontre des intérêts du peuple français. En fait, c'est le système, quelque part.
Oui, parce que faut pas, à mon avis, être dans une position anti-élitaire par principe. Il faut une élite pour structurer un pays. En Hongrie, il y a eu les élections il n'y a pas longtemps. Pour le coup, il y a un deep state. Hein. Il y a un état profond, mais qui est plutôt patriote, a priori, ce qui n'est pas le cas en France. En France, cet état profond, le problème, c'est qu'il n'est pas dans la défense de son pays, dans la défense de son peuple. Et on a voulu aussi constater à quel point, finalement, il y avait une forme d'entrisme d'idéologie partagée. Alors, on a fait un choix de méthodo dans cette sélection des noms. On a choisi des familles qui avaient une influence actuellement, parce qu'on aurait pu évidemment s'intéresser aux familles historiques.
Aux dynasties.
Voilà, ouais. Non, actuellement. Et donc, la méthodo, c'est qu'on a pris des informations disponibles en ligne et vérifiées. Il y a tout un tas de méthodes pour aller chercher ces infos, notamment aux greffes du tribunal de commerce.
Oui, il n'y a pas de spéculatif là-dedans.
Non, tout est vérifiable, tout est sourcé. Et d'ailleurs, si vous voulez contribuer vous-même en allant sur les 200 familles de Polémia, donc vous trouverez le lien facilement, vous pouvez, si vous voulez préciser, si vous voulez ajouter quelque chose, on va vérifier la source, bien sûr, mais ça peut étayer, et c'est un premier tome qu'on a sorti, les 200 familles. C'est pour ça qu'il faut nous aider de toutes les manières pour continuer cette œuvre.
Alors, dans les familles directement au sens premier du terme, évidemment, une des plus connues, une des plus médiatiques, c'est la famille Duhamel. La famille Duhamel, donc, avec Benjamin, avec Alain, avec Patrice, Nathalie Saint-Cric, Amélie Oudéa Castéra, Frédéric Oudéa. Comment ça s'organise justement? Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu quels sont les liens entre toutes ces personnes? Parce que on a du ministre, on a des journalistes les plus écoutés de France, en tout cas les plus présents dans les médias. Donc expliquez-nous comment ça marche du côté de cette famille-là.
C'est un très bon exemple, les Duhamel, un peu caricatural, parce qu'on les aime bien. Bon, c'est une cible facile, on va pas se priver. Effectivement, c'est un peu le jeu de cette famille, quoi. Il y a le tonton, la tata, le père, le petit-fils. Enfin, c'est un ensemble comme ça oligarchique. Alors, on voit donc dans le cas des Duhamel, effectivement, que c'est une famille qui a de l'influence dans plusieurs domaines. Voilà. Il y a d'autres familles qui ont de l'influence dans un même domaine, mais dans plusieurs écuries. En fait, ils contrôlent tout, l'opposition, bref. Alors, notamment dans les médias, en simulant des lignes éditoriales différentes. Là, pour le coup aussi, on voit que c'est une famille qui a des liens interconnectés. Y a, dans les affaires, c'est aussi le cas. On peut citer M. Niel, qui, en plus d'avoir eu un succès entrepreneurial chez Free, a réussi également à marier donc, la fille de Bernard Arnault. Voilà. Donc, vraiment une belle opération commerciale. On voit, voilà, c'est ce type de famille qu'on a été montré justement au grand jour. Alors, c'est les noms les plus connus, les Duhamel, Niel et tout ça. Mais il y en a d'autres. Moi, qui m'ont beaucoup surpris, par exemple la famille Cazeneuve, alors pas la famille Cazeneuve de M. Bernard Cazeneuve, mais une autre qui en fait a permis de voir qu'il y avait 4 députés.
Oui, et puis effectivement, 4 députés, et puis même, alors il y a une question que je me suis posée intuitivement, c'est est-ce qu'on peut dire que ces 200 familles travaillent main dans la main, ou alors Est-ce qu'il y a des rivalités? Et évidemment, on connaît la famille Bouygues, les Niel, les Arnaud, etc. Ils sont pas tous main dans la main non plus pour conspirer pour la destruction de la France, quelque part. C'est-à-dire que, en l'occurrence, même entre eux, ils ont de nombreuses oppositions.
Alors, des oppositions d'intérêt, peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait une opposition de fond. Il n'y a pas une opposition idéologique entre eux, en réalité. Mais je pense qu'il y a une forme de contrôle social dans un milieu. Vous, Alexandre, qui partagez des valeurs proches des miennes, j'imagine, quand on se retrouve à une soirée, si on commence à tenir des propos pro-immigration ou voilà, un peu contre notre groupe social, bah, ça va mal finir la soirée. Bah, oui. C'est un peu le même cas dans leur milieu, dans leur entrisme. Il y a des codes qu'il faut respecter, des postures. Mais finalement, c'est des gens qui prônent l'entre-soi un peu pour vivre entre eux. En réalité, ils ne fréquentent pas ce dont ils promeuvent l'avènement. Et je considère, moi, que voilà, y a, tout ça, c'est un peu de l'esthétique. Il y a par contre, des gens qui sont véritablement mus par une idéologie. Mais il y a des liens capitalistiques, il y a des liens d'affaires. C'est un peu un grand théâtre, quand même.
Alors, il y a quand même aussi quelque chose qu'on constate, c'est que ces 200 familles se retrouvent aussi dans les mêmes écoles. Dans les mêmes formations, enfin, en fait, quelque part, l'entre-soi commence dès l'enfance.
Alors oui, bah, il y a le fameux lycée Stanislas, donc, ou d'autres, hein, il n'y a pas que des gens issus du système ou de l'oligarchie, il y a de très bonnes personnes aussi issues des classes populaires qui réussissent,
bien sûr,
pas généraliser une attaque, encore une fois, anti-élitaire. Par contre, il est vrai qu'ils vivent tous aussi dans une concentration géographique. On parlait des 200 familles de la Banque de France. Bah, à l'époque, c'était un peu disséminé sur tout le territoire national. Mmh. Moi, je suis breton. Moi, j'espère qu'il y avait des bretons. Aujourd'hui, à part un breton parmi ces 200 familles, qui n'en est même pas un d'ailleurs, puisque le système est contre lui, je parle de Bolloré, en fait, il y a une concentration géographique telle que, là, voilà, aux alentours du 16e, par exemple, il doit y en avoir beaucoup. Donc, c'est aussi un signal de paupérisation de la France, dans la mesure où il y a une concentration des familles, mais aussi une concentration géographique. Le capital aussi. Un capital qui appartenait à des grandes familles industrielles.
Ce que j'allais dire, c'est que, en fait, on voit une vraie convergence entre élite économique, élite médiatique, quelque part, élite intellectuelle. On a l'impression que tous les pouvoirs sont vraiment concentrés au même endroit.
Oui, alors, la différence, c'est qu'auparavant, il y avait un capitalisme de connivence, comme on disait, avec les grands industriels français. Aujourd'hui, non seulement le capital est concentré dans l'État, donc il y a un étatisme de connivence, les copains financent les think tanks progressistes payés par l'argent public entre eux, il y a les associations évidemment, donc là c'est le problème c'est que c'est fait avec l'argent des Français, voilà, l'État finance une idéologie particulière, celle de ces 200 familles, celle de ce deep state progressiste, donc premier point sur le capital, et deuxième point on voit qu'il y a eu un transfuge aussi enraciné, si vous voulez, de ces familles industrielles à l'époque du Front Populaire, vers les fonds de pension américains aujourd'hui. Mmh. Il y a aussi une fuite du capital dans Bilderberg, à Davos, et on voit que ces 200 familles sont très liées, y compris par ses intérêts atlantistes.
Alors justement, c'est un autre point, vous me faites la transition parfaite auquel je voulais vous mener, c'est quels sont les liens de ces 200 familles à l'étranger ? Est-ce qu'ils ont des liens avec d'autres personnalités étrangères de premier plan ? Si oui, lesquelles ? Est-ce qu'il existe une forme d'international progressiste ? Est-ce que finalement, ce sont des... En fait, parce que là, vous vous concentrez exclusivement sur le cas français, mais dans le fond, on peut retrouver de semblables personnalités, de mêmes idées par ailleurs, un petit peu partout dans l'Occident.
Parfaitement. Il y a un bon exemple, si on devait en prendre qu'un, c'est M. Glucksmann. Alors, M. Glucksmann, donc, le père, était un néoconservateur, un
André,
convaincu. Alors, bon, on connaît la façade, on va dire, du couple Glucksmann-Salamé, donc Léa Salamé qui est sur le service public, évidemment. Alors, quand on gratte un petit peu cette façade, qu'est-ce qu'on découvre sur M. Glucksmann-fils ? C'est qu'en première noce, il s'est retrouvé marié avec une vice-ministre ukrainienne. Bon, ok, cette vice-ministre ukrainienne a disparu des radars depuis 2016. Ils ont eu un enfant avec M. Glucksmann que Mme Salamé élève aujourd'hui. Bon, c'est l'information que j'ai découvert personnellement avec le travail de Gauthier et d'Edouard, donc, qui ont réalisé ce dossier que je salue. C'est que Mme Salamé élevait l'enfant d'une vice-ministre ukrainienne qui a disparu depuis 2016. Donc on voit bien qu'il y a quand même une caste mondialisée avec des intérêts, des mariages, encore une fois, y compris jusqu'en Ukraine, aux États-Unis, en passant par la France. Bon, effectivement, il y a une dimension internationaliste, si je puis dire, dans ces intérêts.
Autre point, c'est vous citiez à l'instant les groupes Bilderberg, Davos, etc. On entend beaucoup d'histoires, évidemment, sur ces groupes. Qu'en est-il réel? Enfin, déjà, il faut rappeler que je crois que pour Bilderberg, au moins, les listes sont publiques déjà des participants. Quand on regarde un petit peu ça, qu'est-ce qu'on constate réellement? C'est-à-dire, en fait, en réalité, qui sont les personnes? Comment sont choisies finalement les personnes qui vont faire partie de ces groupes internationaux parmi déjà les élites nationales, enfin, de ces pays?
J'avoue que je ne sais pas exactement comment on procède pour sélectionner la liste, la guest list des invités de Davos, ou même faut payer cher sa place.
Mais même en France, par exemple, vous parlez à plusieurs reprises du club d'influence Le Siècle. Alors qu'est-ce que c'est exactement que Le Siècle? Qui s'y réunit? Comment ça marche? Quel est le projet?
C'est pareil sur ces groupes d'influence, ces clubs privés. Je pense effectivement, c'est un peu comme les Young Leaders, en fait. Ils vont se baser sur qui a de l'influence, qui a du talent pour représenter les intérêts qui sont les leurs, les intérêts américains en l'espèce, les intérêts mondialistes, plus précisément, les intérêts progressistes aussi. Ils vont un petit peu voir qui parmi Gabriel Attal ou d'autres sera le meilleur poulain dans différents domaines, hein, dans la justice, dans les médias, dans la politique, pour suppléer, on va dire, les anciennes générations et continuer leur œuvre. Je pense que c'est un phénomène de sélection des élites qui se passe par ces cercles.
On peut pas évidemment. J'ai eu un petit peu de mal à préparer cet entretien dans le sens où effectivement c'est très difficile de revenir sur les 200 familles séparément les unes des autres. Donc prenons les plus connues et les plus emblématiques également. Attal Séjourné.
Oui. Je l'ai cité en début d'entretien, Attal Séjourné. Donc,
quelle est l'histoire? Comment ça se passe?
C'est une belle histoire très romantique entre M. Attal et M. Séjourné, qui malheureusement s'est terminée. Mais quand on voit un petit peu les collusions qui existent, c'est intéressant de voir à quel point, évidemment, ils se rendent service dans la politique, mais aussi que M. Attal était lui-même déjà issu d'une grande lignée d'industriels, de politiques, qui ne sort pas de nulle part. C'est un petit peu. J'ai un autre exemple qui me vient en tête là. Madame Seydoux, voilà, la famille Seydoux.
Oui, oui.
Madame Seydoux, donc elle a eu du cinéma, elle a joué dans le dernier James Bond.
Oui, oui.
Léa Seydoux, donc, a eu l'outrecuidance de dire qu'elle avait fait l'école de la rue. Voilà, on se la joue bobo. Bon, qu'est-ce qu'on découvre sur Madame Léa Seydoux? C'est qu'elle est issue de la famille Seydoux. Le grand-père Seydoux, il est propriétaire des cinémas Pathé.
Oui, ça aide.
Voilà. Donc en fait, c'est un autre exemple. On voit bien que le cinéma, c'est les mêmes mécanismes que la politique. C'est-à-dire qu'il y a, quand on reprend la famille Seydoux, des liens capitalistiques avec la famille Saadé, oui, l'armateur Saadé. Il y a, on pourrait continuer la liste ainsi. On voit bien qu'il y a des familles qui ont des intérêts dans plusieurs écuries et qui finalement se marient entre eux, se retrouvent entre eux. Il y a véritablement une forme d'entre-soi, mais poussé à l'extrême. C'est ça qui m'a marqué quand j'ai découvert ce dossier, quand je l'ai relu, quand je l'ai approfondi, c'est de constater à quel point ils sont peu nombreux, finalement, et qu'ils se marient entre eux.
Est-ce que ça... Alors, je ne sais pas exactement comment tourner ma question, mais est-ce que ça ne peut pas mener à une forme de, je dis volontairement de façon polémique, hein, de complotisme, tout ça? Dans le sens où, évidemment, on voit toutes ces familles qui se cooptent, qui cèdent, qui ont globalement les mêmes idées, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de façon presque naturelle, ou alors c'est quelque chose de calculé? Est-ce que, quelque part, j'ai envie de dire, je vais prendre le terme direct, mais est-ce qu'ils complotent ensemble quelque part? Et si oui, dans quel but?
Alors, le complot, il a toujours eu dans l'histoire. Donc, c'est d'avoir des intentions qui ne sont pas celles qu'on montre officiellement. Donc, tout le monde comploter, dans les sphères patriotes, on peut comploter, c'est-à-dire que parfois on a un discours qui est différent de nos véritables intérêts. Oui, le complotisme peut exister. Si c'est la question d'une forme de manipulation cachée, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que dans un milieu social donné, il y a des comportements sociaux donnés. C'est-à-dire que, y compris encore une fois dans notre milieu, j'aime bien ce terme, le milieu patriote, nationaliste, etc., c'est normal, on se connaît, on s'apprécie, on peut rencontrer une dame qui nous plaît, et finalement c'était la cousine d'un gars qui partageait nos idées, on se rend compte que finalement, bon, c'est-à-dire que je pense que c'est simplement qu'il y a un bloc élitaire, et qu'il faut remplacer ce bloc élitaire par notre bloc élitaire.
Alors c'est, voilà, c'est bah, ça, décidément, vous faites toutes les transitions, Lucas Chancerelle, je n'ai même pas besoin d'en inventer, voulu, mais toute cette interview est un vaste complot qu'on a préparé en amont.
Pour en parler.
Mais plus sérieusement, effectivement, on a chacun évolué dans un, comme vous dites, dans un milieu, dans une sphère. Quelque part, il existe aussi une sphère, on pourrait dire même un microcosme parisien d'extrême droite. Enfin, j'utilise extrême droite sans connotation négative en l'occurrence, hein, mais pour réunir un petit peu les patriotes, les nationalistes, les identitaires, les nationaux-révolutionnaires, tout ce qu'on veut. Ce milieu-là existe. Quelque part, est-ce qu'il est aussi dans... Alors certainement, il n'a pas assez, autant de pouvoir, ça c'est certain.
Non, mais, malheureusement.
Mais est-ce qu'il est aussi dense, aussi développé? Est-ce que finalement, ce bloc dont vous parlez, c'est un bloc qui, finalement, en fait, c'est simplement le bloc qui a réussi.
Le bloc qui a réussi.
Le milieu qui a réussi.
Vous entendez? Ah oui, par rapport aux 200 familles.
Voilà.
En fait, c'est un milieu qui a réussi parce qu'on a laissé réussir. On a laissé le monde de la culture à la gauche, depuis Malraux, en particulier Mitterrand, enfin bref. On a considéré que la culture était un sujet secondaire. Or, on a bien vu que, bah ça c'est un peu la métapolitique, le combat culturel de Gramsci, quand la culture était aux mains de la gauche, eh bien, elle dominait tout le reste. Elle a dominé le cinéma, elle a dominé les médias, elle a dominé, par effet de contamination, si je puis dire, la justice et un ensemble d'autres milieux, la haute administration, qui fait que bah, peut-être la droite nationale, a délaissé ces sujets. Donc il faut aussi avoir une autocritique pour réinvestir ce champ. C'est ce que plein de bonnes initiatives font, et on voit qu'on a regagné du terrain, qu'on est en pleine dynamique sur ce combat culturel. C'est un milieu qui a réussi, mais parce qu'on n'a pas choisi de le combattre aussi.
C'est vrai qu'on voit dans cette description le fait que beaucoup en fait, sont soit des comédiens, soit du producteur de cinéma. En fait, il y a aussi quelque chose qui nous distingue vraiment d'eux, c'est qu'eux, en plus, ont la machine étatique derrière qui permet d'avoir les subventions.
Oui, c'est ça. Il y a, comme je l'ai dit, un étatisme de connivence où l'argent public est déversé dans une idéologie commune. On finance les copains. Mais c'est pareil, ils se retrouvent à la même table au resto. Et dit, Bernard-Henri Lévy dit, tiens, j'ai un film à faire sur l'Ukraine, est-ce que tu veux pas me filer un peu de pognon public pour qu'on puisse faire ce film qui est très important pour la réussite de notre combat.
Est-ce que les 200 familles, c'est un problème en soi ou c'est un problème parce qu'elles sont progressistes?
C'est un problème parce que leur idéologie nous plaît pas.
Ouais.
Et c'est un problème parce qu'ils détruisent la France.
Mais les 200 familles de droite nationale, disons, ça vous déplairait pas?
Ça me déplairait pas parce que je pense qu'elle défendrait l'intérêt des Français. Encore une fois, moi je ne suis pas anti-élitaire. Je pense qu'il faut une structure, il faut des cadres, il faut qu'on puisse assurer le pouvoir. Ça va d'ailleurs être un gros problème si jamais la droite nationale ou même le Rassemblement national venait à gagner. C'est le problème des cadres. Voilà. Comment avoir des préfets, des sous-préfets, des juges, des profs? Il faut des gens qui puissent assumer un certain sens des responsabilités, une certaine compétence technique sur des sujets. Donc moi, je pense que il faut au contraire vouloir devenir ces 200 familles avec un sens de la méritocratie. Mais je ne suis pas du tout contre qu'il y ait une structure de nature aristocratique.
Mais d'une certaine façon, parce que nous sommes journalistes, alors vous n'êtes pas que journalistes, hein, mais parce que nous sommes journalistes, nous sommes nous-mêmes des hommes de réseau, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour construire finalement de semblables réseaux? Et question qui va derrière, c'est est-ce que la droite, presque par nature, a pas plus de difficultés pour des raisons de querelles de chapelle ou autres à s'unir que ce... En fait, j'ai même pas envie de dire vraiment la gauche, mais que ce centre-gauche progressiste, européiste, mondialiste,
East.
Oui.
Nationaliste, en l'occurrence, oui, il y a effectivement des difficultés, d'égo. On dit toujours la droite la plus bête du monde, parce que la gauche réussit lorsque ses intérêts sont menacés à dépasser les clivages humains, les clivages politiques. Je crois que c'est assez vrai. De par son fondement, la droite est plus individualiste, plus libre, et donc elle a plus de difficultés à avoir un sens du commun, à avoir un sens tactique qui soit collectif, effectivement. Mais je pense qu'il y a quand même des barrières qui s'effondrent. Pourquoi ? Parce que la droite gagne partout dans le monde. On voit qu'il y a une dynamique qui s'enclenche. Et donc, il y a tout intérêt, finalement, à jouer avec le réel. Et l'avantage aussi que nous avons, c'est que nous sommes des jeunes. Moi, j'ai 26 ans. Vous devez avoir à peu près le même âge. Donc, on a une conception différente de cette union des droites. Moi, je le vois, on fréquente beaucoup plus d'assistants parlementaires du RN, d'assistants parlementaires de Reconquête. Il y a une union des droites qui se fait aussi de manière générationnelle.
Oui, de manière générationnelle. Et puis, on va dire, qui ne se fait pas forcément exactement sur les petites divergences d'idées qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de nuances toujours entre, par exemple, les européistes identitaires ou les, même on pourrait dire, les nationaux ou les souverainistes, etc. Enfin, on sait qu'il y a quand même pas mal de nuances. En revanche, c'est vrai que par ça commence presque par la camaraderie, par l'amitié, par ça commence presque. En fait, quelque chose qui est assez amusant, c'est que eux se retrouvent au Ritz et nous on se retrouve au bar.
Oui, au CAF Saint-Germain.
Oui, exactement. Voilà, au CAF Saint-Germain. Disons-le.
Sortons les mots.
Exactement. De la rue des Canettes.
La rue des Canettes. Faut assumer. Il y a des lieux de pouvoir, si je puis dire. C'est pas le terme puisqu'on n'a pas le pouvoir, mais des lieux d'influence de cette droite qui existent, qui sont naturels. Encore une fois, on aime être entouré de gens qui pensent comme nous. Donc,
est-ce qu'il faut calculer ça quelque part ? Est-ce qu'il faut avoir justement cette idée de bâtir des réseaux, de bâtir des contacts, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui se fait intuitivement ? Et autre question qui me vient derrière, qui est un petit peu liée à celle-ci, c'est quelque part, on sait que, alors vous-même vous êtes breton, moi je suis mayennais, donc nous sommes cousins d'une certaine façon, mais enfin on sait que quand on vient de province et qu'on arrive dans le milieu parisien justement, de droite, on n'a pas forcément tous les codes, ça demande quand même une forme d'intégration, d'assimilation qui est pas forcément simple justement pour rejoindre toute cette élite.
Alors il faut pas le vouloir, faut pas le désirer, avoir un sens de réseautage, même si ça fait partie de la politique. Je pense que c'est un élément naturel qui se fait parce qu'il y a des camaraderies, il y a des expériences militantes qu'on vit entre nous, d'aller coller des affiches, ça resserre des liens, de partager des risques quand les antifas déboulent pour aller au combat. Bah, on se serre les coudes et on y va aussi. En fait, il y a une dimension, si vous voulez, de contexte, d'évolution commune. On a aussi les mêmes références, les mêmes blagues. Et je pense que c'est pareil dans ces deux sons familles, si on y revient un petit peu. Encore une fois, c'est que là, l'intérêt des Français est attaqué par ces familles, par les Duhamel, par les Glucksmann, par cette administration payée par l'argent des Français. Un dernier exemple, si vous le voulez bien, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps encore. Moi, j'avais noté le nom des deux Nerveaux. Deux Nerveaux. Alors, bon, je vois que vous êtes ici soumis au contrôle de l'antenne par l'ARCOM. L'ARCOM, donc.
Béni soit-elle. Merci, voilà. Madame ARCOM, merci, pour l'ARCOM, votre bonté, votre gentillesse.
Allemande Nerveau.
Allah l'a soumis.
Allemande Nerveau, donc, qui est passé par l'État, le Conseil d'État, aujourd'hui, gère l'ARCOM. Bon. Sa femme, Laurence, elle est quand même financée par Georges Soros. Il y a un think tank qui est progressiste, qui prône l'implantation des migrants dans nos campagnes. Est-ce qu'il y a vraiment la prétendue neutralité du service public à laquelle ils aspirent ? Ou est-ce que, finalement, ils défendent un petit peu leurs intérêts ? Ils défendent leur posture aussi ? Moi, je crois que ce qu'on a voulu montrer avec ce travail très ambitieux de Polémia, cette cartographie donc, des 200 familles, vous allez voir, donc, plus le nom est important, plus la bulle est grosse. Donc, vous allez, mes chers auditeurs, sur 200familles.com, 200familles.polemia.com, vous mettez votre mail pour pouvoir accéder à la cartographie. Si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, d'avoir les plus de 120 pages de dossiers, je vous invite à faire un don, bien sûr, parce que c'est un gros travail technique que Polémia a fait, un gros travail humain. Donc évidemment, c'est toujours bienvenu pour avoir un tome 2, un tome 3 et continuer notre œuvre. Voilà, c'est un petit peu ça que moi j'essaye de faire avec Polémia et Jean-Yves depuis qu'on est arrivé dans l'équipe, c'est de prendre à bras le corps aussi ces sujets techno, parce que cette cartographie interactive, bah, c'est pas simplement un livre, on a voulu la rendre un petit peu dynamique, la rendre plus lisible aussi, et c'est pour ça aussi qu'on a créé une IA. Notamment, je me permets de faire une petite
allez-y, vous êtes sur votre lancée de la promotion.
Je continue jusqu'à...
Vous avez le droit seulement si vous faites la louange de Radio Courtoisie après.
Eh bien, gloire à Radio Courtoisie. L'IA, d'ailleurs, se sert sans doute des références de Radio Courtoisie, puisque c'est une IA que Polémia a développée, une IA identitaire, qu'on a appelée d'ailleurs Polémia, hein, pour faire un petit jeu de mots, qui se base sur des sources uniquement patriotes, identitaires, qui partagent notre corpus idéologique. Et vous ferez la différence, donc, sur l'IA de Polémia, entre les réponses que va vous donner Polémia et ChatGPT va vous donner.
Oui. Merci beaucoup Lucas Chancerelle d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre travail, c'est 200 familles qui dirigent la France, que vous pouvez retrouver donc sur le site de Polémia, et vous pouvez retrouver également la cartographie sur donc 200familles.polémia.com, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà, on vous invite à aller regarder ça, c'est passionnant, et évidemment, on a pu aborder il y a peut-être 4 ou 5 de ces familles, mais vous inquiétez pas, il y a vraiment vraiment de la beaucoup. Matière, on s'en lasse pas, et puis ou plutôt on s'en lasse un peu trop, mais enfin c'est et on découvre aussi beaucoup de noms, ce qui oui. est vraiment enfin voilà, j'en ai plein en tête là, mais voilà, Barbizet, voilà la famille Bailey dans le sud, enfin voilà, il y a beaucoup d'informations, c'est très complet, c'est particulièrement bien ficelé. Merci à vous Lucas Chancerelle. Merci. Et puis on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite.
Merci de nous avoir invités.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Nous suivons la ligne droite, notamment tout de suite avec Éric Doutrebente. Éric Doutrebente, je rappelle que vous êtes fondateur de Tiepolo Financière, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Alors depuis le début de la semaine, LVMH, Kering et puis Hermès ce matin ont annoncé leurs résultats trimestriels. Quels sont les éléments qui s'en dégagent ?
Alors d'abord, c'est un secteur qui sont très internationaux. LVMH avait annoncé ça en début de semaine avec évidemment des chiffres d'affaires qui sont plutôt résistants et résilients. LVMH est un leader mondial avec plusieurs activités, la partie vin et spiritueux qui lui pour l'instant tient le coup, la partie mode et maroquinerie qui a été en baisse mais qui continue de résister et de progresser, surtout aux États-Unis. Donc la partie américaine, où paraît-il que le consommateur américain devait, avec tous les éléments trumpiens, devait baisser, eh bien ça résiste très bien sur la partie américaine, la partie parfum cosmétique un peu en baisse, et aussi la partie montre joaillerie, où ils ont racheté il y a quelques années Tiffany, et Tiffany est en forte croissance à deux chiffres. Et puis après, il y a la partie distribution sélective, dont la partie duty free, où ils sont un petit peu allégés. Et donc l'ensemble du résultat des chiffres d'affaires sur la partie LVMH depuis sur le premier trimestre est en publié à plus 1%, mais évidemment en réel, il est à moins 6%, puisqu'il y a un effet de change en 2026 par rapport au premier trimestre 2025. L'effet de change est négatif entre 5-6%, essentiellement lié au dollar. L'impact monétaire sur le yuan est à peu près neutre et sur le yen est un petit peu positif. Donc voilà, élément important sur LVMH, c'est une très bonne résilience et on est vraiment plutôt sur les plus bas. Et on voit très bien que le titre ne réagit pas beaucoup. Alors qu'il y a, alors sur les chiffres d'affaires de Kering qui ont été annoncés hier soir à la clôture, donc Kering est vraiment un peu en dessous du consensus. Je rappelle que le consensus, c'est ce que l'ensemble des investisseurs, surtout des analystes financiers, estiment comme prévision de chiffre d'affaires. Et donc, ils ont publié un chiffre d'affaires de 3,6 milliards en baisse de 6%. La partie américaine, comme sur LVMH, est en hausse de 9%. Donc, vous voyez que ça résiste aussi pour Kering. En Europe de l'Ouest, on est en baisse de 7%. Là, évidemment, l'importance des flux touristiques qui diminuent à cause des affaires entre la guerre Ukraine-Russie qui évidemment empêche, rallonge les voyages pour les Asiatiques par rapport à la France, parce qu'il ne faut pas oublier que le ciel russe n'est toujours pas possible de passer au-dessus, donc ça quand même ça perturbe. Donc Europe de l'Ouest, moins 7%, là je suis sur Kering, et puis la partie chinoise est en baisse, la partie Asie-Pacifique est en baisse de 4%, parce que, évidemment, la Chine est sous pression, surtout pour Gucci. Bon, le Japon est à peu près stable. Ce important que pour Kering, c'est ce qu'il va y avoir dans quelques jours. Il y a un CMD, ce qui veut dire en français une journée dédiée aux investisseurs et aux marchés financiers, qui a lieu le 16 avril. Et donc, le nouveau boss de Kering fait un travail de fond. Et en dernier, Hermès, où je vais être un peu rapide. Le chiffre d'affaires est à 4,7 milliards, en baisse de 1,4 publié. Il y a aussi un impact monétaire, mais Hermès continue de surfer. Alors évidemment, la baroquinerie est en baisse, mais continue de surfer avec des nouveaux modèles et avec une implantation et une désirabilité très forte concernant les marques de luxe internationales.
Éric d'Outremonte, je crois que nous arrivons à la fin de cette chronique. Effectivement, il est 9h29, donc désolé, on ne pourra peut-être pas tout faire en entier. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on
simplement
vous...
un petit mot sur les réactions boursières. Oui. Sur longue période, les valeurs de luxe continuent de surperformer, mais à court terme, LVMH a tenu, et donc pas de grosses variations depuis le début de la semaine. Par contre, baisse non négligeable sur Hermès ce matin et Kering. Mais ne regardez jamais le court terme, occupez-vous du long terme. C'est ça qu'il faut regarder.
Et ben voilà, c'est ça qu'on retiendra. Merci d'avoir complété. C'était bienvenu. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, Éric d'Outremonte.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Alexandre.
Ça va ?
Bonjour Franck. Oui, très bien.
Bonjour. Bon, bah c'est très bien. Alors c'est confirmé, les jeunes Français ne lisent plus.
Eh ben voilà, les Échos consacrent une chronique à ce constat implacable révélé par le Centre National du Livre, l'effondrement de la lecture chez les jeunes, particulièrement les 7-12 ans qui jusqu'ici, écrit Isabelle Fiquet, magie de l'enfance résistait encore. Alors une chute qui coïncide souvent avec l'arrivée d'un premier smartphone dans les mains de nos chérubins. Les calculs ont été faits, hein. 5h20 devant des écrans sous toutes ses formes pour les filles de 16 à 19 ans, contre 19 minutes de lecture, et un peu moins de 5 heures pour les garçons du même âge, contre 10 minutes de lecture. Oui, c'est vraiment peu. Renouer avec la lecture est un enjeu sociétal majeur, de santé publique, plaident tous les spécialistes de l'éducation, écrit l'éditorialiste. La volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans va dans ce sens. Quand le livre de chevet devient TikTok, cela ne fait pas des citoyens éclairés, s'inquiète un ministre.
Sinon, la presse revient sur la loi sur les ZFE qui a été rejetée hier à l'Assemblée nationale avant que celle-ci ne passe au Sénat.
Oui, alors comme l'écrit les Échos, les députés ont eu la peau des ZFE, un projet de loi retoqué à 192 voix contre 149 pour. L'adoption mardi de la loi de simplification acte la suppression de ces zones à faible émission ou interdire la libre circulation des véhicules les plus polluants. Alors opposé au texte écrit de son côté Le Parisien, les socialistes se sont ainsi retrouvés à voter en faveur de l'amendement de compromis proposé par le gouvernement qui lui proposait de laisser aux collectivités toute latitude pour appliquer ou non les ZFE. Mmh. Et les LR avec qui le gouvernement avait discuté pour trouver ce compromis ont préféré voter contre l'amendement pour éviter le rejet du texte. Mais finalement, l'amendement a été rejeté sous les applaudissements des élus RN, mais rien n'est encore fait, écrit Wally Bordas dans le Figaro. Si le Sénat valide définitivement cette loi mercredi après-midi, le texte devra ensuite passer entre les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Oui, oui. Alors d'aucuns estiment que ce dernier devrait en toute logique retoquer la suppression des ZFE. Cette mesure est un cavalier législatif puisqu'il n'a aucun lien avec la simplification de la vie économique, croit savoir un ministre. Un cadre macroniste le contredit, rien ne dit que les sages censureront cette mesure.
Et on reparle du gouvernement qui a annoncé qu'il ne permettra pas à la proposition de loi d'extension des autorisations à travailler le 1er mai de poursuivre son parcours.
Oui, alors l'annonce par Sébastien Lecornu d'un report de l'autorisation de travailler le 1er mai a provoqué des tensions à droite et au centre, écrit l'Opinion. Et dans cette histoire, Sébastien Lecornu a trouvé une explication et un coupable. Alors l'explication, c'est laisser la proposition de loi poursuivre son parcours aurait permis aux boulangeries industrielles et à la FNAC d'ouvrir le 1er mai. Et le coupable, les tentatives d'obstruction systématique de la France insoumise depuis les municipales ont provoqué un désordre qui l'a contraint à appuyer sur le bouton pause. Mmh. Alors dans les colonnes du Figaro, l'éditorialiste Guillaume Tabar écrit avec son ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, le chef du gouvernement, remet l'ouvrage sur le métier et veut même croire qu'avec les dispositions mieux calibrées et étroitement délimitées, un consensus peut rapidement se construire. Mais qui peut raisonnablement imaginer que des facilités seront accordées aux boulangers ou aux fleuristes d'ici là, d'ici ce 1er mai 2026. L'horizon est donc au minimum reporté à 2027 en pleine présidentielle. Et compte tenu du caractère symbolique, sensible, donc explosif de la question du 1er mai, on peut aisément parier qu'il sera jugé plus prudent de laisser au prochain occupant de l'Élysée le soin de rouvrir le dossier.
Et oui, alors que se tient à Genève un salon de l'horlogerie, on découvre que Pierre Hermé, un célèbre pâtissier, est passionné de montres.
Ouais. Oui, alors c'est amusant cette information. Pierre Hermé se confie dans le dernier numéro du magazine The Good Life, titré « L'art du voyage ». Et dans un article « Les montres, je ne les collectionne pas, je les porte », il raconte qu'il a fait des pieds et des mains pour obtenir une montre très spéciale. Alors je pense aux spécialistes. Hein. À Tokyo, en 2014, dans le quartier de Ginza, il avoue que presque tous les jours, d'abord, il porte une montre différente. Et ce jour-là, il entre dans une boutique de montres anciennes et tombe en arrêt devant une Rolex Daytona 6243 Big Red, une montre vintage, comme on dit. Mais qu'est-ce qui me plaît dans cette montre ? Tout. C'est un modèle mythique, au sens propre du terme, une icône. En plus, je la trouve belle et simple, et quand on ne la connaît pas, elle est discrète. Alors vous verrez la photo de cette montre au bracelet en acier en page 55 de The Good Life, et je ne doute pas que certains grands amateurs la regarderont avec convoitise.
Un film événement à l'écran aujourd'hui, juste une illusion.
Oui, alors Eric Toledano et Olivier Nakache signent un retour fracassant avec une fiction cocasse et imprévisible où ils revisitent les années 80, écrit Les Échos, un des sommets de leur brillante carrière. À la fois récit initiatique et comédie romantique émouvante, écrit Olivier De Bruyne, relevant que les deux cinéastes maîtrisent l'art du tempo et de l'équilibre scénaristique. Et Eric Neuf décrit dans Le Figaro: Toledano et Nakache cherchent le juste, le tendre, ils trouvent le vrai, on en reste confondu. Ils prennent la digne relève du tandem Yves Robert-Jean-Loup Dabadi, ils auront tous les deux au paradis. Vous voyez l'allusion, mon cher Alexandre, j'espère que vous avez vu.
Mais oui,
film.
On ira tous au paradis.
Non, ils auront tous, non mais nous irons tous au paradis et un éléphant ça trompe énormément.
Et oui.
Voilà, c'est deux films vraiment symboles et icônes des années 80.
On n'a pas pu les voir, hein. Il est trop jeune.
Bah, je sais, mais enfin, à force de dire qu'on est trop jeune, et si on ne regarde pas un peu dans le rétroviseur, on devient vieux très vite. Alors, à lire...
Regardez-vous, Franck.
Regardez-vous mieux, oui.
Et puis, à lire dans Valeurs Actuelles. Alors, cette fois, l'entretien donné par une certaine, moi j'avoue que je ne connaissais pas cette femme, Alexandra Pupink-Bortoli, qui vient de faire paraître Le Monde appartient aux gentils. Alors, je ne sais pas si ça vous est directement adressé, mon cher Alexandre, et ça vient de sortir aux éditions du Cerf. La gentillesse appartient à cette grammaire de l'humanité qui précède les mots, confie-t-elle. Elle est une force civilisatrice. Chaque acte de gentillesse préserve la dignité de chacun. La gentillesse veille à la pérennité du monde en tentant d'apaiser les conflits, de renouer les liens là où ils sont brisés. Et je vous laisse avec ces propos à méditer, mon cher Alexandre. C'est par ces 1000 actes du quotidien, des plus brillants aux plus modestes, que la gentillesse, avec humilité et grandeur, répare le monde. Et je vous dis à demain.
Quelle belle chronique, hein, c'est merveilleux.
C'est superbe, ça me donne envie de le lire. Tiens, merci Gilles, mais en fait vous partez pas tout de suite.
Non, je reste.
Zone libre.
Bon alors, récréation.
La récréation, oui. Non,
qu'est-ce qui vous a marqué d'autre que vous n'avez pas pu effectivement...
La presse, alors parfois, vous savez...
Allons-y sur l'affaire, parce que je ne sais pas si vous en avez parlé ces derniers jours, mais sur l'affaire Bardella-Bourbon-Parme, comme c'est un petit peu votre cœur de votre côté people qui ressort, si vous me passez l'expression.
Vous dites ça parce que j'ai travaillé 4 ans à Point de Vue, c'est
mais
pour ça.
Voilà, exactement.
Non, mais je pense que... Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est assez drôle, c'est la réflexion de Marion Maréchal, je ne sais pas si vous l'avez entendue. On l'interrogeait et elle a répondu... écoutez, elle souriait en disant, écoutez, Bardella, minute, oui. Puisque moi, je vis avec un Italien. Et donc, ils sont à égalité. Lui, il vit avec une Italienne. Enfin, il vit. Il partage son cœur avec elle. Non, je pense que c'est un faux débat. Je veux dire, l'amour transcende bien des cœurs. Et je pense que je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, dans quelles conditions ils se sont rencontrés et quels projets ils ont ensemble. Moi, je trouve.
Mais en termes d'image.
C'est une vieille tradition française d'unir les royaumes.
Oui, et... paparazzi ou paparazzade.
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a, non, mais il y a un côté où, évidemment, on voit que c'est organisé quand même.
Oui,
on voit
ça,
que c'est planifié. Et comment, justement, comment est-ce que vous analysez un petit peu ce coup de communication?
Alors, moi, je vais vous dire. Je pense que d'un jour. Je pense que Jordan Bardella ne savait pas très bien. Il est un peu maladroit, peut-être, dans ce. C'est un garçon assez pudique, très élégant, qui est assez charismatique. Et je pense qu'il voulait peut-être pas choquer certaines personnes, enfin choquer, c'est le mot un peu à la mode, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que c'était un peu une occasion proposée par Paris Match de se montrer avec elle. Vous avez vu, les gestes sont très pudiques. Il y a simplement une photo où il la tient par la main et ils sont en Corse, donc ils sont un petit peu comme ça. On a l'impression qu'ils sont un peu en exil, vous voyez. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez beau en soi. Voilà, maintenant ça va pas plus loin pour moi.
C'est-à-dire, mais parce que pour le coup, c'est vrai que ça a été très largement commenté, d'une certaine façon. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que, alors évidemment, sans remettre en question l'amour qui les unit sans doute, mais
les conséquences tout simplement, si éventuellement Jordan Bardella accède à la plus haute autorité de l'État,
avoir comme première dame une princesse, c'est merveilleux quand même. Vive le roi, quoi.
Il faudrait qu'il lui passe la bague au doigt, en revanche. Oui. Ça, c'est pas possible qu'ils soient comme ça, tous les deux, à l'Élysée, sans avoir la bague au doigt.
Voilà, Gilles, bon, chantre moral maintenant et chaperon du couple Bardella, Bourbon-Parme. Alors, mais cela étant, sur la famille Bourbon-Parme.
Je les connais un peu, moi, je les ai rencontrés.
Voilà ce que j'allais dire. Il nous reste une minute. J'étais sûr que vous aviez quelque chose à leur sujet.
Non, mais je vais pas raconter ma vie, mais il se trouve qu'à une époque, j'étais secrétaire général du prix Oscar Wilde, qui avait été animé par Jacques de Ricomont, et c'est ensuite Franck Ferrand qui a pris le relais, et donc j'ai fréquenté un peu les Bourbon-Parme à Versailles, je n'en dirai pas plus, qui étaient un petit peu les mécènes du prix. Voilà ce que je voulais dire. Mais j'ai fréquenté beaucoup d'Altesse Royale, hein, c'est sûr, dans mon métier. J'en ai même interviewé. J'ai même rencontré la reine d'Angleterre, hein, puisque quand je travaillais avec Jean-Jacques Bourdin, j'ai fait une chronique sur... On m'a invité à la garden party de la reine. Donc, je vous raconterai ça un jour.
Voilà. Ah non, mais c'est l'élite à Radio Courtoisie, hein, c'est tout.
Les 200 familles, c'est Gilles Brochard, en fait, finalement.
Il y a Brochand qui est méchant et Brochard qui est en retard.
Je vous ai connu meilleur, Franck. Ouais,
pardon, c'est la fatigue, la vieillesse, tout ça.
Ouais. Comme ça, dans notre création.
Oui, c'est ça.
Ah bah la zone libre, c'est tout le monde, hein, c'est le principe.
Ouais, mais vous êtes bien derrière votre régie là, comme ça, séparé par une vitre.
On va faire des photos aussi.
Des photos, parfait. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin, quand même.
Bon, et puis vous êtes... Ouais, bon.
Mais merci d'avoir été avec nous. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci, c'était une belle matinale que j'ai eu plaisir à animer. Mais il vous faut, maintenant faire en sorte qu'on puisse avoir une matinale demain et pour Milan.
Voilà, et j'ai pris du plaisir aussi à la réaliser, voyez, cette matinale. Comme quoi, tout le monde est heureux. J'espère que nos auditeurs le sont aussi. Et s'ils le sont aussi, eh bien qu'ils participent à l'aventure de Radio Courtoisie, qui lui offre la pérennité, qui lui offre un litre d'essence. Par exemple, c'est très cher, un litre d'essence, mais pour nous, ça fait des petits dons qui pourraient faire plein de petits. Si, bien sûr, je fais les deux, sinon on paye très cher. Merci, Hidalgo. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne, et bien sûr, je vous remercie énormément d'avance.
Voilà, merci chers auditeurs, et puis tout de suite on retrouve le Debout les Français, donc la vraie justice, permettre aux victimes de faire appel, un entretien avec un nouvel invité, Christophe Éoche Duval.
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, chers auditeurs, nous allons parler de justice. Nous allons parler de justice et quelque part d'une absence dans la justice française qui est celle de la possibilité pour les victimes de faire appel. Et ce sujet, on va en parler avec Christophe Éoche Duval. Christophe Éoche Duval, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour Radio Courtoisie. Bonjour aux auditeurs, de bon matin.
Je rappelle que vous êtes fonctionnaire, essayiste et que vous êtes auteur du livre Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État. Bah voilà, vous l'avez avec vous, tant mieux. Alors, Tout d'abord, la première, dans ce sujet que nous allons aborder avec vous, je dois dire que j'ai été assez surpris quand on m'a annoncé que j'allais travailler là-dessus, préparer cet entretien, parce que je ne savais même pas, à titre personnel, que les victimes n'avaient pas le droit de faire appel dans le droit français. C'est vrai que c'est toujours le parquet qui se charge de faire appel. Pourquoi ?
Alors écoutez, je vous remercie d'abord de me donner la parole et surtout par la même occasion à l'ensemble des co-signataires d'une tribune qui est parue il y a 2 jours au Figaro, dans lequel nous interpellons le garde des Sceaux sur cette revendication. Alors cette tribune, je ne peux pas citer toutes les personnalités qui l'ont co-signée, mais
il y en a quelques-uns que nos auditeurs connaissent, comme exactement Noël Lenoir, Pierre Marissève, Michel Devilliers, Xavier Rofer,
Et puis deux victimes qui sont la veuve du gendarme Eric, voilà. Et puis les parents de Jérémy Sancier, qui avait été l'objet d'un crime horrible. Voilà. Et plein d'autres, parce que cette tribune, nous n'avons pas eu le temps de collecter des milliers de signatures que nous aurions pu voir. Car ce que vous venez de dire est très important. C'est la sidération. D'abord, c'est l'ignorance des victimes qu'effectivement, dans le procès pénal, elles ne sont presque rien. Je n'ai pas dit rien, presque rien. Bien sûr, des progrès ont été faits pour les droits des victimes, je ne vais pas en disconvenir. Mais, comme vous, elles découvrent, si l'expérience malheureusement cruelle se cause les causes, elles découvrent qu'elles n'ont pas les mêmes droits à égalité que la partie mise en cause ou que le parquet. Et par conséquent, effectivement, elles sont privées du droit d'appel, ceci dans le procès correctionnel comme dans le procès criminel. Quand on est passé par, j'allais dire, la case victime, malheureusement, et que l'on découvre, cette fait, cette sidération, eh bien, je peux vous dire que c'est une seconde peine que vivent en général les victimes. Parce que si par hypothèse, deux hypothèses, la personne mise en cause a été, pour des raisons qui peuvent, éventuellement sur le plan du droit, se comprendre, la manifestation de la vérité n'a pas été jusqu'au bout, la personne a été relaxée ou acquittée. Mais pourquoi la victime ne pourrait pas demander un deuxième examen de ce procès par la cour d'appel ou par une seconde cour criminelle? Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque la victime a un quantum qui est infligé à la personne mise en cause et qu'elle estime en son fort antérieur, par rapport à la souffrance qui a été la sienne, que ce quantum n'est pas suffisant ou n'est pas suffisamment contrôlé, n'est pas suffisamment encadré. Je pense notamment à toutes les mesures de sursis probatoire, de mesures de sûreté, etc. Eh bien, elle ne peut pas avoir le droit de faire réapprécier ce quantum. Or, ce sont des principes de base de notre justice. Et donc, moi, ce que je demande avec l'ensemble de ces co-signataires, mais avec toute personne qui, dans l'existence de la vraie vie, s'est trouvée être victime et embarquée, j'allais dire, dans ce parcours du combattant qui est la chaîne pénale et qui est la procédure pénale, eh bien, quand il découvre qu'il n'est pas à égalité avec le parquet ou avec le mis en cause, c'est une souffrance supplémentaire qu'on lui inflige. Et vous savez ce qui se passe dans ce pays qui est la République, qui a liberté, égalité, fraternité sur les frontons de ses mairies. Pour obtenir le droit d'appel, pour obtenir que ne soit pas accepté un jugement que l'on peut considérer comme inacceptable en première instance, qu'elle soit correctionnelle ou qu'elle soit criminelle, que doivent faire les victimes? Eh bien, elles doivent tambouriner. Elles doivent, si elles ont du piston, obtenir, supplier auprès du parquet que ce soit lui qui fasse appel. Si elles n'ont pas de piston, si elles sont, vous comme moi, eh bien, des citoyens lambda, elles seront invisibilisées et puis on dira circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce droit des victimes, comprenez, à avoir l'égalité avec le parquet, qui représente la société, qui ne représente pas la victime, je le répète, et égalité avec le mis en cause, qui, évidemment, au titre de tous les principes civilisationnels du droit pénal, doit avoir la plénitude de se défendre. Cette égalité, eh bien, voyez-vous, j'entendais tout à l'heure votre journaliste présenter les très mauvais chiffres de l'insécurité. C'est un secteur que je suis particulièrement, je suis expert sur ces questions et j'ai écrit ce livre, Le prix de l'insécurité,
enquête sur une défaillance d'État. Eh bien, j'affirme que si demain on injectait dans l'ensemble de notre droit pénal et notre droit de la procédure pénale l'égalité des victimes avec les mises en cause et avec le parquet, ce serait un élément absolu de contrôle, de contre-pouvoir du système judiciaire. Parce qu'à chaque étape de la chaîne pénale, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'exécution des mesures judiciaires, c'est-à-dire le suivi pénitentiaire également de la personne qui a été condamnée, à chaque fois, la victime, et bien évidemment, naturellement, son avocat commis d'office, qui représenterait ses intérêts, serait un garde-fou. Un garde-fou pour discuter, critiquer, remettre en cause, faire appel de telles mesures qui vont, je le dis encore une fois, depuis l'enquête préliminaire, et bien on demande que soit reprise l'enquête préliminaire, par exemple, droit que n'a pas de la même manière la victime, jusqu'à le poste pénitentiaire, où évidemment, bien sûr, quand une personne est remise en liberté ou fait l'objet de permission de sortie, jamais on informe la victime. Jamais on demande, le juge d'application des peines ne demande à la victime d'être convoquée et de donner son point de vue. Moi, je suis pour le droit des victimes. C'est ce que je demande avec l'ensemble des co-signataires, avec la femme du gendarme Eric, qui est admirable dans son combat. Je demande à ce que cette égalité, presque, j'allais dire, républicaine, soit reconnue.
Alors, une des questions que je me suis posée, c'est que, est-ce que dans le fond, ça risquerait pas, alors peut-être je me fais un petit peu l'avocat du diable si vous me passez l'expression, mais est-ce que ça ne risque pas quelque part d'encombrer une justice qui est déjà sous l'eau, qui a du mal à traiter tous les dossiers, si on rajoute potentiellement un tiers de dossiers à traiter en plus parce que la victime pourrait les remettre en cause, est-ce que c'est une mesure quelque part qui fonctionne toute seule, ou est-ce que finalement vous l'écrivez dans un contexte où Gérald Darmanin lui-même prépare une grande réforme, est-ce qu'il ne faut pas finalement une refonte globale du système judiciaire plutôt qu'une seule mesure comme ça à côté?
Alors d'abord, l'objection selon laquelle effectivement les victimes pourraient, par le fait qu'ils auraient désormais le droit d'appel, provoquer, on va dire, un surcroît de procédures, et notamment d'appel dans les chambres correctionnelles, les cours d'appel, ou bien dans les cours criminelles ou cours départementales criminelles. C'est un faux problème. La réalité, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on a un droit d'appel que le mis en cause, je vous le rappelle lui-même, fait nécessairement appel de ses condamnations par le tribunal correctionnel ou par la cour criminelle. La réalité, c'est qu'il y a environ, alors je n'ai pas les chiffres là sous la main, mais il y a 50% d'appels par le mis en cause ou par le parquet. Donc vous voyez que la réponse est également la même. Si on voulait une justice expéditive, ce qui serait le contraire absolument d'abord de la justice sous cour et de l'état de droit, il y aurait ne qu'à ne pas reconnaître non plus le droit d'appel, ni au mis en cause, ni au parquet, et considérer que la justice a été rendue. Non, elle n'a pas été rendue de manière correcte. Il faut consacrer ce principe de droit d'appel parce que vous savez, je le pratique, pardon, mais je sais la valeur que cela a de réapprécier une seconde fois un dossier, un quantum, une proportionnalité, une culpabilité, et c'est un droit qu'il faut absolument préserver. Ça n'est pas parce que on aurait une multiplication par deux, ce qui dans la réalité des faits ne se produit pas, du nombre de dossiers renvoyés en chambre délictuelle ou en chambre correctionnelle ou en chambre criminelle, que cela suffirait à justifier de refuser de reconnaître aux victimes ce droit d'appel. Et puis, je le dis encore une fois, c'est un moyen de lutter contre les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Aujourd'hui, cette chaîne pénale, elle est complètement déraillée. Elle ne tient plus compte à la fois de la réalité d'une insécurité qui s'aggrave. Tout à l'heure, j'entendais les chiffres, je peux vous en donner un autre qui est encore plus sidérant. Parce que moi, je surveille ce qu'on appelle la courbe de la morbidité criminelle. C'est-à-dire, la morbidité, c'est quoi? C'est il faut additionner non seulement les homicides volontaires, mais il faut surtout additionner dans une même courbe, dans une même statistique, ce qu'on appelle les tentatives d'homicide. Et elles explosent parce que, quelque part, le crime réussi, j'allais dire, il diminue effectivement en statistique, il diminue grâce au téléphone portable. Vous savez, c'est incroyable comme cette invention a permis d'appeler plus vite le 15 et donc d'éviter que la personne ne décède, ou d'appeler le 17 et d'avoir plus rapidement la police secours qui intervient pour faire fuir ou empêcher l'auteur d'un assassinat d'aller jusqu'au terme de son meurtre. Nous sommes en 2000 à 4491 homicides et tentatives d'homicide, chiffre déjà considérable. Nous sommes passés à 5483, c'est-à-dire plus 22% de crimes d'homicide volontaire et d'homicide et de tentatives d'homicide en 2025, plus 22%. Écoutez, c'est une mexicanisation déguisée ou cachée. Contre celle-là, évidemment, la réponse judiciaire, vous l'avez dit, elle n'est pas suffisante. Et elle n'est pas suffisante d'abord parce que c'est un entre-soi. Un entre-soi entre, bien sûr, le mis en cause, c'est normal. Il a tous les droits et il doit les avoir encore. Peut-être même, faut-il les améliorer sur tel ou tel point, je ne sais pas. C'est aux avocats de le dire. Et le parquet. Et cet entre-soi laisse hors de champ la victime. Or, la victime, encore une fois, je le dis d'abord, il faut pour sa pleine réparation personnelle, morale, reconstruction, etc., qu'elle soit présente dans le procès, qu'elle en comprenne les tenants et aboutissants, qu'elle participe à la manifestation de la vérité, qu'elle participe à l'appréciation de la culpabilité et à l'appréciation aussi du quantum. C'est un droit fondamental qui devrait être reconnu et j'appelle Gérard Darmanin à le reconnaître. Le plaidé coupable qu'il propose est une bonne chose. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, elle permettra de désengorger, c'est vrai, des cours criminels qui étaient absolument engorgés pour des faits parfois qui étaient reconnus. Donc, puisque c'est reconnu et dans des conditions que l'on garantit, eh bien, il n'y a évidemment aucune raison de rajouter de la procédure à la procédure. Mais, y compris dans cette forme de plaidé coupable, il faut préserver les intérêts de la victime. Je dénonce d'ailleurs un point qui était peut-être un détail, c'est que la procédure de plaidé coupable que veut faire Gérald Darmanin ne donne pas la place exactement à la victime en tant que victime, mais à la victime dès lors qu'elle se porte partie civile. Ce sont deux choses parfaitement distinctes. Il faut séparer les deux. C'est d'abord à la victime, et la victime, si elle se porte partie civile, c'est autre chose. C'est une autre question.
Christophe Eoch-Duval, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sans doute qu'on vous réinvitera pour parler plus largement de cette réforme de la justice de Gérald Darmanin et de tous les dysfonctionnements en général de ce système. Redonner une place centrale aux victimes, c'est en tout cas ce que vous proposez dans votre tribune publiée dans le Figaro, co-signée avec Noël Lenoir et Pierre-Marie Sève. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Christophe Eoch-Duval, et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Merci chers auditeurs, merci mille fois d'avoir été avec nous ce matin. Vous avez été nombreux, vous avez beaucoup réagi, vous avez été heureux, vous avez été agacé, vous avez été en tout cas animé. Dans tous les cas, on aime bien susciter justement des débats, des réactions, des réflexions même ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, une matinale et une radio qu'il faut soutenir.
Il faut soutenir Radio Courtoisie car elle ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent, comme les voitures qui ne fonctionnent qu'à l'essence qu'on met dedans.
Que grâce à ceux qui les roulent.
Et c'est ça, rouler votre voiture vous-même, et pour la faire rouler il faut un peu de sous, et Radio Courtoisie c'est pareil. Alors par exemple, si vous avez les moyens, faites un don à Radio Courtoisie sur soutenir.rc.fr, 50€, 100€, vous pouvez choisir même de faire des dons récurrents, réguliers, tous les mois, tous les trois mois, comme vous voulez.
Même 2€, c'est mais déjà un bon début.
Hein, le prix d'un litre d'essence, et on sait ce que ça vaut.
Un litre seulement. Voilà, on vous demande un litre d'essence chacun, chers auditeurs.
Et nous, on roule 20 mètres avec ça.
Sérieusement, vous n'êtes que 2% à donner, donc merci aux 2%, vous êtes tout à fait précieux, mais sachez que si vous étiez, ne serait-ce que 10%, on pourrait faire 5 fois plus, ce serait absolument énorme.
Vous calculez bien,
On pourrait être diffusé dans de nombreux endroits en France, on pourrait sans doute avoir de nouveaux projets, de nouveaux reportages, comme ceux que vous appréciez. Toujours les mêmes figures finalement que vous appréciez tant. D'ailleurs, à propos de ces figures, quel est le programme du jour, Franck ?
Alors attendez, je finis. Soutenir.rc.fr pour le don en ligne et vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et bien sûr, n'oubliez pas de les libeller à l'ordre de Radio Courtoisie. Donc, Le programme du jour, dans quelques instants, Léon XIV en Afrique. Yvon Aimé de Malestroit entre mystique et résistance, tout cela dans Au fil des pages de Benoît Mancheron. Dans quelques secondes en direct, à midi, le libre journal des économistes d'Olivier Mérès. Guérir la sécu ou l'euthanasier, voilà la question qui est posée, c'est direct. Mmh. 17h30, restons courtois avec Arthur de Vatrigan. 19h30 aujourd'hui, le libre journal de la résistance française de Bernard Anthony. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer, qui fut Alexandre Ier de Yougoslavie, un confrère à vous sûrement. Et à 23h, un homonyme du prénom. Soirée musicale avec Stéphane à 23h, la troisième et la quatrième de Schumann.
Et puis merci beaucoup chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle matinale que j'aurai le plaisir d'animer.
Merci à vous cher Alexandre et à demain.